bienvenue à tous. À la une ce matin, le retour des militants de la Manif pour tous, prêts pour la guerre de la PMA, discutée dès la rentrée à l'Assemblée. Certains sont repartis comme en 2013, d'autres, vous l'entendrez, se veulent plus mesurés. Autres annonces d'Édouard Philippe hier, des malus pour les entreprises de l'hôtellerie-restauration, du social ou de l'audiovisuel qui abusent des contrats courts. Une dizaine de secteurs seront visés. Et la retraite, pas touche aux 62 ans, mais pour gagner autant, il faudra travailler plus, ce qui ne fait pas forcément le bonheur des DRH. Elle s'apprête à réformer la justice des mineurs. Elle sera dans ce studio dans 20 minutes.
Oui, il s'agit de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet. Elle est l'invitée du grand entretien de la matinale d'Inter. Vous pouvez dialoguer avec elle, évidemment. 01 45 24 7000, les réseaux sociaux, l'application mobile d'Inter.
À la une également, Donald Trump toujours prêt à écouter des informations de l'étranger pour compromettre un adversaire. Boris Johnson qui entre en campagne pour le 10 Downing Street, le réquisitoire au procès Balkany aujourd'hui, et du cinéma tendre et drôle sur les traces du destin des Juifs de Pologne.
France Inter.
Vont-ils ressortir leurs drapeaux rose et bleu, leurs t-shirts et leurs slogans « Un papa, une maman » Les militants de la Manif pour tous contre le mariage homosexuel des années Hollande sont-ils prêts à redescendre dans la rue contre la PMA pour toutes des années Macron? La procréation médicalement assistée pour les couples de femmes et les femmes seules, promesse présidentielle, sera discutée à l'Assemblée au mois de septembre, annonce d'Édouard Philippe dans son discours de politique générale. Il a donc choisi de battre le fer avant les municipales, quitte à revoir se crisper les conservateurs de la droite catholique qui commencent déjà à mobiliser leurs troupes, Thibault Lefèvre.
Ils ne sont pas encore dans la rue, mais déjà très présents sur Facebook et Twitter. Les membres de la Manif pour tous appellent à la mobilisation générale. Pierre est un militant de la première heure. Il est catholique pratiquant et habite Versailles, dans les Yvelines.
On voit que sur les réseaux sociaux, le discours du Premier ministre est commenté. Les gens se disent, mais quand allons-nous organiser les manifestations? C'est encore un frémissement, mais ça annonce, à mon avis, des mobilisations à venir. Le calendrier qui a été annoncé par le gouvernement va forcer les uns et les autres à revoir le calendrier de mobilisation. Et que le gouvernement se rassure, ce n'est pas prêt de se terminer.
À quelques kilomètres de là, au Chesnay, Antoine vient de coucher ses quatre enfants. Lui aussi est catholique. Comme Pierre, il compte retourner manifester en famille. Mais pas question de reproduire les erreurs de la Manif pour tous.
Ce qui a pu être reproché à la Manif pour tous, c'est de pas assez parler des homosexuels. Parce que ces personnes de chair et d'os, elles ont un besoin de reconnaissance fou. Il y a d'autres manières d'avoir une fécondité. Et c'est aussi peut-être là-dessus qu'il faut insister. C'est sortir un peu de la guerre de tranchées, quoi. C'est mortifère pour tout le monde.
Le premier test est prévu ce week-end pour la fête des pères. L'association Trace ta route, liée à la Manif pour tous, prévoit de rassembler des centaines de personnes dans 5 villes de France.
Et après le rose et bleu de la Manif pour tous, le vert et jaune d'Édouard Philippe à l'Assemblée hier, l'accélération écologique, premier credo de son discours, avec des primes à la place des crédits d'impôt pour la rénovation énergétique des logements notamment, et des réponses aux gilets jaunes, précision des annonces d'Emmanuel Macron, les ménages dans la première tranche de revenus paieront 350 euros de moins l'an prochain. Il y aura aussi des malus pour ceux qui abusent des contrats courts. Et là aussi, Fabien Cazot, on en sait plus sur les secteurs qui seront visés.
De l'hôtellerie, restauration à l'audiovisuel, des instituts de sondage au secteur sanitaire et social, le gouvernement a recensé une dizaine de secteurs dans lesquels les contrats courts sont le plus souvent la norme. Les contrats très courts même, à durée déterminée, de moins d'un mois. C'est dans ces entreprises que le mécanisme de bonus-malus s'appliquera. Une demi-concession faite aux organisations patronales, dans la mesure où il n'est plus question de généraliser le mécanisme à tous les secteurs, mais qui reste, pour ceux qui sont concernés, une mauvaise nouvelle selon la Confédération des petites et moyennes entreprises. Le recours abusif aux contrats courts entraînera donc une hausse des charges sociales pour certains employeurs, un bol d'air au passage pour les comptes sociaux qui trouveront de nouvelles recettes alors que les déficits se creusent. Restent deux inconnus, le seuil à partir duquel le recours au contrat court sera considéré comme abusif, ainsi que le montant du malus encouru.
Et sur les retraites, Édouard Philippe a confirmé la fin des régimes spéciaux qui concernent près de 5 millions d'agents publics et l'instauration d'un âge pivot pour inciter à travailler plus. Mais les patrons ont-ils vraiment envie de voir les carrières s'allonger? Cette question, le groupe Malakoff-Médéric la leur a posée et la réponse n'est pas très encourageante, Faustine Calmel.
Elisabeth vient d'avoir 50 ans et elle se sent déjà dépassée dans son service indemnisation à Pôle emploi en région parisienne.
On nous met des objectifs qui ne sont pas forcément réalisables. On sent que les choses vont très vite et on a un peu le sentiment d'être laissé derrière. Je me dis que je vais m'accrocher à mon poste un maximum en espérant réussir à aller jusqu'au bout, mais je ne serais pas étonnée de devoir laisser ma place à des plus jeunes.
Et pour cause, selon cette étude, seule une entreprise sur cinq a réfléchi à un plan d'action pour ses salariés les plus âgés et 60% des dirigeants se disent inquiets de l'allongement des carrières, détaille Anne-Sophie Godon, directrice de l'innovation chez Malakoff-Médéric Humanis.
L'idée qu'il pourrait y avoir plus de risques d'arrêt maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle. Les dirigeants aussi expriment cette difficulté finalement à se projeter, à pouvoir gérer de manière un peu plus prévisionnelle les emplois et les carrières.
S'ils reconnaissent l'expérience des seniors, leur autonomie, leur capacité à prendre du recul, la moitié des managers regrettent aussi leur manque de souplesse.
On cite assez souvent la difficulté à s'inscrire dans les changements, notamment technologiques, donc la capacité finalement à se maintenir à niveau.
Il faut plus de formation, aménager les horaires, faire de la prévention santé et surtout anticiper, conclut cette étude, parce qu'aujourd'hui les rares mesures qui sont prises arrivent trop tard et que nous sommes tous amenés à travailler plus âgés.
Les 50-64 ans qui sont de plus en plus nombreux à travailler en France, 6 sur 10 aujourd'hui contre 5 sur 10 il y a 10 ans. Enfin, bis repetita pour Édouard Philippe devant le Sénat. Nouveau discours de politique générale aujourd'hui. Celui d'hier a été approuvé par 363 députés. Ceux de droite ont massivement voté contre. Au Sénat, la droite majoritaire a choisi une autre stratégie. Le groupe Les Républicains s'abstiendra sur une ligne ni opposition systématique, ni adhésion systématique.
Il est 8h07. Florence, à ceux qui s'engagent pour sauver les autres, la patrie reconnaissante.
Emmanuel Macron célébrera ce matin le courage des sauveteurs des Sables d'Olonne. 7 hommes, dont 3 sont morts en mer vendredi dernier. Le président leur remettra la Légion d'honneur après un naufrage qui a traumatisé les 8000 bénévoles de la SNSM à Ouistreham, dans le Calvados. Ils sont 24 qui interviennent une cinquantaine de fois par an. Sébastien Sabiron est monté à bord de leur bateau.
Croche-Jobourg, SNS 091 sur 16.
SNS 091 du Croche-Jobourg, bonjour à tous. 37.
15e sortie de l'année pour le Sainte-Anne-des-Mers, le canot tout en de la SNSM de Ouistreham.
Ouais, c'est exactement le même canot que celui qui a sombré au Sable d'Olonne.
À la barre, Philippe Capdeville, le patron du canot, 34 ans de sauvetage en mer, profondément marqué par le drame des Sables d'Olonne.
C'est vrai qu'on a tous été quand même choqué par le fait que c'est des gars de chez nous. Quand il arrive quelque chose à quelqu'un de la corporation, tout le monde se serre les coudes et tout le monde essaye de rendre hommage à trois copains.
Un drame qui rappelle brutalement à ses bénévoles les risques qu'ils encourent au quotidien. Clément, 22 ans, militaire dans la Marine nationale et sauveteur SNSM sur son temps libre.
Quand ça sonne à 3h du matin, et on regarde la météo, le vent, on se dit « Ah oui, ça souffle quand même, c'est quand même une certaine adrénaline, quoi. » Puis on sait jamais sur quoi on va tomber, quoi. Une voie d'eau sur un bateau en feu, on a qu'une seule idée en tête, c'est comment on va procéder pour y arriver.
Là, le Sainte-Anne en route vers Ouistreham.
Ex-gendarme, rompu à cette adrénaline, Anthony est plongeur depuis 5 ans sur le Sainte-Anne des mers.
Je repense à notamment une intervention où on avait deux petits garçons qu'on a été chercher, où concrètement on les a sauvés d'une mort certaine. Et quand on les a pris à bord de notre Zodiac, on s'est pris dans les bras d'ailleurs avec mes collègues. C'est aussi pour ça qu'on est là, c'est pour vivre ces moments-là. Parce qu'on est avant tout une grande famille.
Une famille qui se réunira ce soir à Ouistreham pour rendre hommage à ses 3 disparus.
Les sauveteurs de la SNSM ont secouru 7200 personnes l'an dernier. Reportage en longueur sur le bateau de la SNSM de Ouistreham à retrouver sur franceinter.fr. L'Algérie est l'inventaire des années Bouteflika. Son ancien Premier ministre Ahmadou Yahya est en prison depuis hier, entendu dans des affaires de dilapidation des deniers publics selon les médias algériens. Il fait partie des 12 anciens ministre et préfet dont le parquet d'Alger a transmis les dossiers à la Cour suprême. Si c'était à refaire, le referait-il, Donald Trump, à qui colle à la peau les soupçons d'ingérence russe pendant sa campagne? Un journaliste l'interroge hier soir pour savoir si son équipe accepterait à l'avenir des informations compromettantes sur ses adversaires, des informations venus de l'étranger. Voici sa réponse.
Imaginez que vous êtes un élu du Congrès. Quelqu'un vient vous voir et vous dit « Hey, j'ai des informations sur votre adversaire. » Vous appelleriez le FBI ? Me faites pas croire ça. Si quelqu'un vous contacte d'un pays étranger, la Norvège par exemple, et vous dit « On a des informations sur votre rival », eh bien moi, je pense que j'ai envie de les entendre. Ce n'est pas une interférence, ce sont des infos. Moi, je les prendrai. Si je sens qu'il y a quelque chose d'illégal, peut-être alors que j'appellerai le FBI. Mais si quelqu'un débarque avec des billes sur mon adversaire, vous pensez que je vais me dire « Oh, et si j'appelais le FBI ?» De toute façon, ils n'ont pas assez d'agents pour s'occuper de ça. Mais franchement, posez la question aux élus du Congrès. Ils le font tous, ils l'ont toujours fait. Ça s'appelle recueillir des informations sur ses adversaires. It's called Oppo
Research. Ouais, après cette réponse, il est temps de destituer Trump, écrit Elizabeth Warren, sénatrice démocrate qui milite pour ça depuis la publication du rapport Mueller. Et voilà le cousin britannique de Donald Trump, selon ses contempteurs, Boris Johnson, candidat pro-Brexit à la succession de Theresa May. Il a lancé sa campagne hier, favori dans les sondages, Antoine Gignot, mais conspué par les anti-Brexit, venu le cueillir à la sortie de sa conférence de presse.
Il s'engouffre rapidement dans sa voiture, Boris Johnson. Mais les militants tapent sur le capot, brandissent des pancartes et un portrait qui le caricature en opportuniste égocentrique.
Il est comme le Trump britannique. C'est pour lui, lui en premier, deuxième le parti et après le pays. C'est de la folie, c'est absolument affreux.
Shameful, ashamed. C'est une honte pour le pays. Il fait les commentaires racistes. Et on n'a pas le droit de parler comme ça.
Car l'ancien ministre des Affaires étrangères assume ce qu'il appelle son franc-parler et sa comparaison entre les femmes voilées et les boîtes aux lettres. Mais ce sont surtout ces fausses promesses que veut retenir Steve.
Cet homme s'est fait virer deux fois pour avoir menti. Il a une maîtresse, il a menti aux représentants du parti. J'espère que les gens vont voir clair dans son jeu. Tout ce bazar autour du Brexit a commencé à cause d'une guerre interne au Parti conservateur.
Une guerre dans laquelle Boris Johnson avance désormais à visage découvert, lui qui, en 2012, affirmait qu'il avait autant de chances de devenir Premier ministre que de se réincarner en olive. Londres, Antoine Gignot, France Inter.
Pas de grand groupe des populistes au Parlement européen. Marine Le Pen et son allié italien Matteo Salvini n'ont pas réussi à s'entendre avec le Britannique Nigel Farage ni avec les Polonais du PiS. Ils resteront donc à 73 députés dans leur groupe renommé Identité et Démocratie.
Il est 8h13, Florence, au procès Balkany. C'est l'heure du réquisitoire.
Oui, le mois dernier, le procureur avait réclamé 4 ans de prison contre lui et 2 ans contre sa femme dans le premier volet fraude fiscale de l'affaire. Là, on parle de blanchiment et de corruption, Sarah Guibaudot, qui pourrait lui coûter beaucoup plus cher.
Le procureur a reconnu une qualité à Patrick Balkany, le courage d'être venu affronter la justice. Pendant 4 semaines, le maire de Levallois a continué à distribuer les bons mots et les explications douteuses. La villa de Marrakech, il maintient qu'elle était louée à son fils, qui n'a pas démenti, et qu'elle devait servir de planque à un richissime saoudien. L'homme d'affaires en question s'en est étranglé. Il n'a pas besoin de se cacher du régime de Riyad, dit-il, et besoin de personne pour s'acheter une maison. Quant à savoir pourquoi M. Al-Jaber a fait ce cadeau de 4 millions d'euros à Patrick Balkany, la défense souligne que cela reste mystérieux aussi. Pourquoi verser un pot de vin pour obtenir un délai de paiement pour les tours de Levallois ? En 2009, avec la crise financière, la ville n'a pas d'autres investisseurs. Patrick Balkany finit par reconnaître en partie la dissimulation de sa fortune avec toute une palette d'excuses. Son père juif, son gestionnaire suisse, sa qualité d'élu qui l'empêchait de faire marche arrière. S'il en est là, c'est parce qu'il a la manie de faire plaisir, a-t-il conclu. Pas sûr que le procureur soit convaincu par ses regrets.
Sarah Guibaudot, à l'instant, on apprend que la passagère de la voiture qui a fauché 2 enfants dimanche à Lorient a été arrêtée hier soir. C'est une information de France Info qui la tient du parquet de Lorient. Les Bleus acclamés par les 34 000 spectateurs du stade de Nice. Hier soir, 2e match du mondial féminin de foot et 2e victoire, 2-1 face à la Norvège. Malgré un but contre son camp de Wendy Renard, les 2 buts pour la France sont signés Valérie Gauvin et Eugénie Le Sommer. Elle place l'équipe en tête de son groupe et lui garantissent quasiment les 8e de finale. Et puis Chris Froome, opéré d'une fracture au fémur, au coude et aux côtes hier soir, mis au tapis par un coup de vent sur la route du Dauphiné, l'Anglais ne sera évidemment pas du Tour de France 2019, lui qui tablait sur une cinquième victoire.
Et enfin, un film grave et drôle à la fois.
Une réussite signée Élise Hotzenberger, Lune de miel, l'histoire d'un jeune couple d'origine juive sur les traces du passé polonais de leurs aïeux, Jacqueline Petroz.
Anna reproche à sa mère de n'avoir jamais cherché à savoir ce que sa famille avait vécu en Pologne avant d'arriver en France. Maintenant que son fils est née, la jeune femme n'a de cesse de savoir d'où elle vient. Adam, lui, connaît ses racines et c'est justement son oncle qui leur propose de le retrouver dans ce village polonais dont ils sont originaires. Anna, dès son arrivée à Cracovie, s'enthousiasme.
J'ai des sensations qui remontent.
Mais attends, t'as quoi comme sensation parce que t'es jamais venu ici?
Je sais pas, c'est les sensations de mes ancêtres. Tu sais, c'est un peu comme les Bretons quand ils retournent en Bretagne ou les Lorrains quand ils vont en Lorraine ou... Même les châteaux, il y a châteaux.
Mais voilà, les recherches d'Anna piétinent. Ne pas savoir est une blessure. Et sa colère monte en voyant le passé occulté en Pologne. La lune de miel tourne au vinaigre.
Tu sais quoi, Anna? Souvent, je me dis que ça serait plus simple si t'étais pas juive.
J'ai épousé un juif antisémite.
Ouais, et puis moi, j'ai épousé Rabbi Jacob.
Arrête cette bagnole.
Le film d'Élise Hotzenberger est avant tout une comédie et le ton en est léger. Mais si l'on rit et pleure, bien sûr, aux réconciliations, Lune de miel touche avec humour et tendresse certaines cordes sensibles. La fidélité à ses origines, la difficulté d'évoquer un passé douloureux avec les anciens. Quel que soit son déracinement, si on sourit d'Anna, elle remue chez tous un je ne sais quoi qui émeut profondément.
Voilà, Lune de miel au cinéma cette semaine avec Judith Chemla et Arthur Igual.
Et la maman de Claude Askolovitch.
Oui,
qui joue dans le film. Merci Florence Paracuelos.